Bonjour et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonjour Jacques.
Bonjour Corinne, bonsoir à tous.
Eh bien, au sommaire de cette émission, nous vous avons choisi un certain nombre de romans qui ont attiré notre attention ces dernières semaines. Et dans la première partie d'émission, on va vous parler de trois romans qui ne sont pas du tout des polars. Alors pour ma part, je vais commencer par deux, et puis je crois que toi non plus, c'est pas vraiment un roman noir.
Pas
donc tu vas nous parler, voilà. Donc, c'est pas des polars et c'est peut-être même pas des romans noirs. Pour moi, en tout cas, les deux romans dont je vais vous parler, l'un comme l'autre, célèbrent le genre à leur manière. Le premier s'appelle Bacchante. Enfin, j'ai le premier, mais c'est le deuxième dont je vais vous parler, mais c'est pas grave. C'est certainement parce que l'auteur en est une femme, Céline Minard. Et je précise d'ailleurs le nom Bacchante, c'est avec un H. C'est un H en référence à Bacchus. Il n'est pas ici question de moustache. Donc je le répète, c'est un roman de Céline Minard. Il est paru il y a peu de temps chez Rivage. Et c'est un hommage, on va dire, baroque au film de braquage. Le second, publié il y a quelques mois chez POL, s'appelle Série Noire. Son auteur en est Bernard Schaeffer. C'est un roman qui va nous parler d'un enlèvement d'enfants. Dans les deux cas, en tout cas, ce sont deux très beaux exercices de style. Et évidemment, vous avez remarqué que j'ai inversé, et on va commencer par le deuxième, c'est-à-dire, on va commencer par Série Noire.
Et Série Noire ne serait pas un polar, c'est quand même...
Eh non, enfin bon, c'est une mise en abîme tellement complexe qu'on pourrait finir par dire que c'est un polar. Tout commence en 1960. Georges Simenon, ah ben voilà, on est dans le polar. Mais il est aussi, en 1960, président du jury au Festival de Cannes. Simenon, ce grand raconteur d'histoire, ce grand inventeur d'énigmes, juste l'année où est présenté L'Aventura, le film d'Antonioni. Pour rappel, peut-être certains ne s'en souviennent pas ou certains ne connaissent pas du tout ce film devenu mythique, où le réalisateur veut montrer carrément la dissolution du récit après la disparition d'un personnage. On a droit à la projection houleuse de ce film à Cannes, qui est le début du récit de Bernard Schaeffer. Certainement d'ailleurs, parce que son projet d'écriture n'est pas si loin de celui d'Antonioni, enfin à mon avis du moins. Dissoudre le récit dans les méandres de la vie du personnage principal, Romain Rolland, connu pour avoir kidnappé dans la réalité, dans la vraie vie, le fils de la dynastie Peugeot, Éric Peugeot. À moins d'ailleurs que le personnage principal du roman de Bernard Schaeffer ne soit Lise, de son vrai nom, Inge-Lise Baudin. C'est une Danoise à la plastique parfaite, splendide.
Danoise,
c'est ça. Qui assista à la projection de L'Aventura en compagnie d'Anna Karina. Et qui va se retrouver mêlée, pour être tombée amoureuse de Romain Rolland, à l'enlèvement d'Éric Peugeot. Après cette première scène, donc la projection de L'Aventura au Festival de Cannes, Bernard Schaeffer explose le récit, littéralement, et nous donne des chiquettes de la vie de Romain Rolland. Sa rencontre avec Lise, ses allers-retours, en Danemark en particulier, pour rencontrer la famille de Lise, et puis un jour, sa rencontre avec Larcher, ouvrier typographiste, qui va être à l'origine du kidnapping. L'histoire devient donc une série de télescopages, comme dans la vie d'ailleurs de Rolland, de rencontres incroyables de Jean Cocteau à Mick Jagger. A-t-il ou non tourné pour le cinéaste d'avant-garde, Kenneth Anger, qui est lui aussi mythique et qui à l'époque travaillait à la Cinémathèque de Paris? Combien d'aventures féminines collationne-t-il? On ne peut pas en faire le décompte. Enfin, on a le cœur de l'histoire, seul fil linéaire ici. C'est donc le kidnapping, l'enlèvement d'Éric Peugeot. Larcher et Rolland, utilisant donc un roman de la série noire, dont le nom est Rapt en français, roman de Lionel White, comme synopsis de leur méfait, copiant exactement l'intrigue de ce roman. Et copiant même mot pour mot la lettre qui va demander la rançon. Dans les archives des frais criminels, on apprendra qu'Éric Peugeot fut retrouvé après la remise de rançon et que les deux complices furent arrêtés et jugés. Mais là n'est pas le propos de Bernard Larcher. L'intérêt ici est le brio avec lequel l'écrivain installe sa mise en abîme, estompant continuellement la frontière entre la réalité et la fiction, effaçant le réel derrière les mythes. Ou bien peut-être est-ce le contraire. Laissons-le parler. Car s'il y a bien quelque chose qui déborde ici, c'est l'écriture. Elle est partout sur le chemin, c'est elle qui porte tout. C'est finalement sur elle qu'il faut compter pour apporter les preuves qui partout ailleurs se dérobent. On a donc ici les mots comme indice. Comme nous dit Bernard Schaeffer, il nous explique « Les faits divers finissent en roman ou en film et les stars échouent à la rubrique des faits divers. » Et ce kidnapping, d'ailleurs le mot kidnapping fut pratiquement employé en France pour la première fois lors de l'enlèvement d'Eric. Donc ce kidnapping, telle l'aile du papillon provoquant un tsunami, aura, quelque part, une influence sur Godard. Dans son film « Made in USA », c'est certainement lui qui va mettre dans les mains d'Anna Karina un polar, comme par hasard, un série noir. La boucle est bouclée. Quand la vie s'inspire de l'art, c'est un autre art qui survivra aux événements. Voilà, donc je rappelle le titre, hein, vous l'aurez compris, ça s'appelle
Série Noire.
Série Noire, et c'est aux éditions POL. Autre fait divers dont s'inspirèrent et s'inspirent encore les auteurs de polar, mais surtout les cinéastes, ce sont les braquages. Imaginez un trésor de 350 millions de dollars dans des bunkers labyrinthiques, dans les tréfonds d'Hong Kong, 350 millions de dollars en bouteilles de vin. Monsieur Kotze, ancien diplomate, a trouvé cette idée très lucrative que de proposer à des particuliers richissimes de conserver, et surtout de faire vieillir, des nectars rares et précieux. Dans des conditions idéales, bien évidemment, propres au vieillissement du vin, certes, mais aussi avec des conditions de sécurité optimales. Ce qui n'empêche pas trois braqueuses, hautes en couleur, de prendre possession du lot, et du lot de bouteilles, évidemment, au moment même où un typhon va s'abattre sur cette ville. En résumé, les entrailles de la ville tremblent sous les cliquetis de bouteilles et les foudres du ciel menacent d'anéantir les nantis. Le drame peut commencer. Mais Céline Minard joue complètement avec les codes du genre, contourne le drame et met des vrais morceaux de comédie déjantée à l'intérieur d'un récit, comme je l'ai déjà dit, haut en couleur. Les braqueuses, dont on ne connaîtra que les surnoms, la blonde, la bombe, la brune. Les trois B, d'ailleurs quatre avec braqueuse, les bouteilles, tiens, un cinquième B. Les bouteilles qui trinquent, qui virevoltent selon l'humeur des trois hors-la-loi. En face, Jackie Tran. Jackie Tran, oui, ça vous dit quelque chose. Jackie Tran, ici, c'est la chef de police. Et puis, il y a Kotze, le propriétaire du bunker, qui vivent une expérience inédite et qui joue à un jeu dont il ne maîtrise absolument pas les codes. Nous vous laissons évidemment découvrir les péripéties de cette fable féroce. Non sans vous parler de la construction, du style, tout à la fois millimétré et échevelé de l'auteur. Chaque phrase roule, tangue à l'unisson du récit. Rien n'est jamais immobile dans le récit, dans le roman de Céline Minard. Chaque mot danse l'un à côté de l'autre, pour mieux entrechoquer les sentiments et les situations. En conclusion, un peu d'ivresse, cela ne fait jamais de mal. On va écouter un peu de musique maintenant.
Un petit peu de musique, quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec les deux romans dont...
Non, c'était pas facile de trouver une référence.
Dont tu as parlé, ni avec celui qui va suivre. C'est un extrait de l'album posthume de Gian Maria Testa, qui fut un temps chef de garde de Cuneo. C'est un poète, chanteur italien. Et il est décédé il y a 3 ans. L'album qui vient de ressortir s'appelle Prezioso et la chanson que nous allons écouter s'appelle Postmoderno Rock.
La meccanica quantistica del rusco interinal è la legge che governa l'algoritmica del carote biotransgeniche, la carne al pentotal. piatti di alluminio della mensa comunale. Farsi un selfie sulla spiaggia fra barconi e mini slip da postare su Facebook col Photoshop.
Danube, pas forcément bleu. Le roman s'appelle Bratislava 68, été brûlant. Il est écrit par William Klimacek et il est traduit du slovaque par Richard Palachak et Lydia Palasakak.
On n'affirme pas la prononciation. Hein.
Ni même des traducteurs, et il est publié aux éditions Agulo. Même les plus jeunes de nos auditeurs savent, les plus vieux se rappellent eux, qu'en 1968, en été, les chars russes ont envahi la Tchécoslovaquie pendant le tristement fameux printemps de Prague. Donc c'était pas en été, c'était au printemps. Prague, mais aussi Bratislava. Ils ont envahi tout le pays, en fait. Bratislava, qui est la deuxième ville du pays et qui a l'avantage d'être la plus proche de la frontière autrichienne, moins de 60 km. Et c'est là que commence notre roman, au moment où l'expérimentation du socialisme à visage humain va se terminer au bout des canons des chars russes et polonais. On va suivre la vie de quelques personnages. Petra, étudiante en médecine, a quelque temps de recevoir son diplôme et d'enfin exercer son métier. Teresa, fille de déportée qui vit mal sa judaïté dans ce pays étriqué. Joseph, pasteur sans paroisse. Et oui, on est dans un pays communiste, et il n'a pas voulu s'associe au pouvoir, donc il n'a pas été ordonné. Et il y a aussi Alexander. Lui, il a bien réussi. Il est responsable d'une usine qui a le vent en poupe. C'est a priori un favorisé du régime. Son seul défaut, si tant est que ça en soit, il collectionne les petits trains électriques. Ce qui n'est, il faut bien l'avouer, pas vraiment une activité terriblement antisocialiste. Quatre destins qui vont basculer cet été-là. En fait, il y a beaucoup plus de personnages parce que chacun d'eux a une famille, des amis, et leurs actions, leurs choix vont impacter, comme on dit à France Info, la vie de leurs proches. Petra, Teresa, Joseph, Alexander vont-ils fuir et quitter toute leur vie, leur famille, ou rester et lutter pour résister de l'intérieur? Il faut dire qu'il n'est pas très facile d'affronter les chars à main nue, même avec un petit train électrique, même si les soldats qui pilotent les chars ne sont pas forcément certains de leur bon droit. William Klimaček, je crois que je l'ai bien dit là, va nous raconter ce qu'il advient à Petra, Teresa, Joseph et Alexander en 50 tableaux. C'est comme ça qu'il nomme ses chapitres. Tant chacun d'eux est une petite scénette. J'utilise le mot scénette à dessein car la drôlerie et l'humour, bien souvent noir, est toujours là au détour de chaque chapitre, au travers d'anecdotes ou de petits faits qui font sourire. On verra par la suite certains émigrer au Canada en usant des bienfaits de la diaspora tchèque dans le monde, ceux qui sont partis déjà bien avant eux, d'autres tenteront l'aventure du kibboutz en Israël. Ils seront plus libres, mais pas forcément plus heureux, car une ombre de remords reste toujours ancrée au fond d'eux-mêmes, même quand, finalement, tout ira mieux pour eux. L'auteur n'écrit pas vraiment un pamphlet anticommuniste, même s'il est souvent de parti pris, il faut bien dire. Il raconte des faits qu'il dit avoir recueillis auprès des intéressés eux-mêmes au cours d'une longue enquête. Il met en scène par moments son propre personnage. Lui-même, à un moment, je lis, et je vous lis ce qu'il dit de lui-même. « Dans ce roman, j'omets volontairement la description des personnages et des paysages. Je les saute à votre place. Lecteur, je les ai toujours survolés, et je vous imagine un peu comme moi pour cette raison. J'espère que ce rembourrage ne vous manquera pas. »
Il met quand même un jugement. Quand oui, tu parles de rembourrage, c'est un peu...
Mais c'est typique de son style. En fait, donc, ce roman, bon, on le disait tout à l'heure, c'est ni un polar, ni un roman noir. C'est même pas non plus un roman historique. C'est un roman contemporain, slovaque, puisque maintenant les deux pays sont séparés, brillamment écrit, et qui met en scène, ou plutôt qui remet en lumière des événements du passé et les replace dans le monde d'aujourd'hui. William Klimaček n'est pas, par exemple, sans être intrigué que son pays aujourd'hui soit l'un de ceux qui refusent le plus l'immigration, alors que nombre de ses ressortissants ont bénéficié de l'aide et de l'accueil d'autres pays, pas forcément extrêmement volontiers, il faut bien l'avouer, dans les temps qui étaient beaucoup plus difficiles pour eux. Donc je vous rappelle, je vous laisse découvrir ce qui va arriver donc à Petra, au bord du Saint-Laurent, à Joseph, en plein milieu des États-Unis, à Teresa, en Israël, dans ses kibboutz. Et vous verrez que, finalement, ils ont peut-être quand même bien fait de quitter Bratislava en 1968. Donc, William Klimaček, je l'ai répété plusieurs fois.
Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein, une très belle couverture verte.
Très belle couverture verte avec un petit train. Bratislava 68 était brûlant et s'est paru chez Agulo. À tout à l'heure après les infos.